France Inter. Dominique Fortier, David Fuenquinos, Christophe Onodibio, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Pourquoi écrivez-vous, Dominique Fortier ?
J'écris parce que j'ai besoin de vivre plus qu'une vie. J'écris pour la même raison qu'on lit, je pense.
David Fuenquinos ?
Moi, je voulais être musicien, mais j'ai essayé de monter des groupes et je ne trouvais jamais de bassiste.
Et vous, voilà Christophe
Onodibio ? Voilà pourquoi j'écris.
Pour ne pas devenir fou, pour essayer de trouver un sens et de la beauté. Je pense qu'il y en a encore.
Une qualité indispensable pour écrire, Christophe ?
La patience.
Dominique Fortier ?
Il faut être capable de voir des choses qui n'existent pas ou qui n'existent pas encore.
David Fuenquinos ?
L'obsession.
Un défaut indispensable pour écrire, Christophe Onodibio ?
Le goût du secret.
David Fuenquinos ?
L'insomnie.
Et Dominique Fortier ?
Une surdité sélective.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassem.
Bienvenue dans l'émission Etc. en public au Festival du Livre de Paris. Aujourd'hui, trois auteurs à succès et trois textes qui ont un point commun, la couleur bleue. Bleu Klein, le bleu de la mer d'abord, chez Christophe Onodibio, qui signe un livre en forme de musée aquatique. Mer intérieure, c'est son titre. Il y mêle souvenirs d'enfance, réflexions mythologiques et littéraires, éloge des sirènes et des requins. Sachant que Christophe Onodibio a toujours écrit sur la mer, elle traverse toute son œuvre. On parlera avec lui de cette obsession protéiforme, de ce lien viscéral et poétique au grand bleu qui irrigue chacun de ses romans. Bleu, c'est aussi la couleur qui domine le livre de la romancière québécoise Dominique Fortier. Docteur en littérature, lauréate du prix Renaudot de l'essai en 2020, Dominique Fortier porte elle aussi l'amour de la mer en étendard. Dans son dernier livre, Quand viendra l'aube, le bleu migre, il quitte le registre marin pour se faire couleur du manque et de la nostalgie, couleur du deuil aussi, le deuil d'un père. Ce roman, Dominique Fortier, vous auriez pu l'appeler La délicatesse, tant il est sensible et doux, mais un autre auteur avait choisi ce titre avant vous, David Fuenquinos, qui est aussi avec nous aujourd'hui pour son roman gros succès déjà, Tout le monde aime Clara, dans lequel le bleu est celui des bleus à l'âme, le bleu d'une crise existentielle feutrée, d'un homme qui cherche à écrire pour ne pas sombrer, et d'un écrivain dont le silence pèse autant que les mots. Ce bleu un peu flou qui est peut-être la couleur de la mélancolie contemporaine, mais dans ce livre, il est surtout question du bleu de l'encre, du pouvoir de la littérature, et ça tombe bien. Nous retrouverons nos trois auteurs du jour pour une séance d'atelier d'écriture en fin d'émission. Vous écoutez Etc. au Festival du Livre de Paris, c'est parti.
Etc.
Rebonjour à tous les trois, Dominique Fortier, Christophe Onodibio et David Fuenquinos. Bonjour aussi à Sandrine Babu de la librairie L'Instant dans le 15e arrondissement de Paris qui est avec nous et qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Bonjour,
bonjour.
Sandrine. Dominique Fortier, votre livre est une traversée de la nuit vers l'aube, de l'obscurité du deuil vers la lumière, sous forme de fragments délicats, de pensées, de sensations. Et dans votre texte, le bleu est la couleur qui domine. Pourquoi le bleu ?
Le bleu s'est imposé de toutes sortes de façons. D'abord parce que c'est un livre que j'ai écrit au bord de l'océan, parce que c'est effectivement un livre d'aube, mais c'est un livre d'aube qui se répète. Moi, je suis d'accord avec David quand il dit que on a besoin d'être insomniaque un peu pour arriver à écrire comme il faut. L'été au cours duquel j'ai écrit ce livre, je me réveillais à 4h, 5h le matin, juste à temps pour voir le ciel changer de couleur, changer de lumière. Et donc, c'est une traversée du jour aussi, parce que cette aube qui se répète sans cesse, elle va finir sur un crépuscule, en fait, qui est une seule soirée.
Vous dites dans votre livre que jusqu'au Moyen-Âge, la mer n'était pas bleue. Vous écrivez « La mer était blanche, verte ou noire, le ciel noir, vert ou blanc ». Et je voulais me tourner vers vous, Christophe Onodibio, parce que dans votre texte, vous écrivez la même chose. Vous parlez d'Homère, et pour lui, la mer était violette, elle était grise, elle était noire. Et pour vous, Christophe, de quelle couleur est la mer ?
Alors, elle est bleue, et elle est de ce vert un peu gris de la Manche, puisque je suis né au Havre, donc au bord de ce bout d'océan Atlantique. Et c'est vrai qu'elle est rarement bleue là-bas. Mais il y a eu une sorte d'apparition de la Méditerranée sous le ciel gris du Havre grâce justement à une professeure de grec qui a fait arriver Homère, l'Odyssée, donc le bleu, même si vous avez raison, paradoxalement, en fait, les Grecs qui vivaient près de la mer la décrivaient comme violette ou noire. Effectivement, elle n'est pas bleue parce qu'elle est source de péril, ce qu'elle n'est jamais dans mon imaginaire.
Dominique Fortier, vous approuvez ?
En fait, c'est fascinant parce que le mot bleu n'existait pas en français jusqu'au 11e siècle. Donc, pendant des centaines d'années, on n'avait pas cette idée-là. Ce qui est extraordinaire, je veux dire, si c'est une couleur un peu compliquée, le orange, le pervenche, tu sais, on pourrait comprendre. Mais le bleu, c'est la couleur du ciel, c'est la couleur de l'eau. Et pourtant, on l'associait à toutes sortes d'autres teintes.
Le mot bleu apparaît 45 fois dans votre livre, Dominique Fortier, j'ai compté, 62 fois dans le livre de Christophe Onodibio.
Vous gagnez.
Et chez vous, David Fuenquinos, une seule fois. Donc, ce qui est rare.
C'est mauvais signe.
Dans un roman, non, mais c'est rare. Et la fois où vous citez la couleur bleue, c'est pour écrire « Le ciel gentiment bleu offrait à novembre le goût de l'infidélité ». Parlons-en, David Fuenquinos. Le bleu, c'est la couleur de l'infidélité ?
Moi, j'adore associer des couleurs comme ça à des sensations. Donc, c'est pour ça que ça m'a beaucoup touché.
Vous êtes habillé en bleu aujourd'hui.
Alors, c'est incroyable parce que vous faites quand même une émission spéciale bleue, une thématique qui est sublime, de traverser les livres avec une couleur, une tonalité. Et c'est la première fois que je m'habille en bleu.
Et vous
donc,
saviez
comme
pas
quoi, non, c'était totalement comme quoi il y a une sorte de connexion de la couleur. Mais en tout cas, moi, j'adore associer comme ça les couleurs aux sensations. C'est vrai que je parle souvent d'énergie mauve ou de mélancolie violette. Pour moi, j'ai le sentiment que la couleur donne une définition aux choses.
Et aujourd'hui, vous êtes de quelle couleur ?
Ensoleillé. Donc, je suis dans l'énergie bleue totale et un petit peu violette aussi.
Très bien. David Fuenquinos, Dominique Fortier, Christophe Onodibio, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour entrer plus en détail dans vos livres. Mais d'abord, on écoute Albin de la Simone, « Toi là-bas ».
Qui raye le trottoir. J'ai 16 ans de corbeau noir, cheveux vermeils et long foulard. Moi qui ne vois pas plus loin que moi, rien au-delà du bout de mes doigts. Moi qui n'entends que mes fourmillements, que le dedans de mes battements. Je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas, je t'aime. Je ne connais que ton nom, mais je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas. N'approche pas ou je meurs. Je t'aime, j'en ai peur. Trois quarts. J'aime l'amour, la mort, le soir. Depuis mon lit, dans un mouchoir de poche, j'affabule ton corps, notre histoire. Moi qui n'ai lu que ma poésie, en deux temps maudits, je nous compose trois mouvements d'une symphonie, notre opéra, notre apothéose. Je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas, je t'aime. Je ne connais que ton nom, mais je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas, n'approche pas. t'approches pas de moi ou je meurs. Ne traîne pas trop près de ma foudre. La force de mon souffle au cœur pourrait bien enflammer la poudre. Je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas, je t'aime. Je ne connais que ton nom, mais je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas. N'approche pas ou je meurs. Je t'aime, j'en ai peur, j'en ai peur de toi.
Etc. Et nous sommes toujours en compagnie des romanciers David Fuenquinos, Dominique Fortier et Christophe Onodibio. On parlait de la couleur bleue à l'instant, Christophe Onodibio. Et votre livre a failli s'appeler Le Livre Bleu.
Oui, je voulais faire un livre bleu. Et ça c'est vrai que ça a été un peu mon titre de travail. Parce que cette couleur bleue, parce que c'est dans le bleu que j'ai vu les plus belles choses de ma vie, notamment. 300 requins marteaux passant comme ça. Dans le bleu, c'est ce qu'on dit en plongée, quand on s'éloigne du récif. Et vraiment, c'est tout bleu et on est en suspension dans ce bleu infini. 300 requins marteaux qui passaient comme ça, avec les mamans, les bébés, les pères de famille aussi, passant comme ça, avec cette forme barbare. Et dans le bleu, oui, c'est l'endroit où j'ai vu peut-être le plus de beauté en ce monde.
Et la couverture de votre livre est bleue, même si on ne la voit pas puisqu'on est à la radio. Dominique Fortier, votre livre est un texte de deuil, je l'ai dit, et s'il est mélancolique, il n'est jamais triste. Comment avez-vous réussi ce tour de force ?
J'étais pas triste en l'écrivant, je crois que ceci explique cela. C'est vrai que c'est un texte de deuil, en même temps c'est davantage un carnet d'écriture, je crois. C'est un carnet de réflexion, c'est un carnet de lecture, en fait c'est un livre sur ce qui reste. Une fois que les gens qu'on aime, qui nous sont proches, ont disparu, qu'est-ce qu'ils nous laissent? Et parfois, dans le cas de mon père, ce qu'il me laissait, c'était une sorte de silence que je décris comme un silence assourdissant. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup dans le silence, qui ne voulait même pas que son décès soit marqué par une notice dans les journaux. Donc, ce qui me restait, c'était les livres et puis d'essayer de trouver la beauté autour de moi.
Et ce silence, on le retrouve dans votre livre? Puisque vous avez choisi une forme quand même fragmentaire, donc avec beaucoup d'espace. Est-ce que c'était volontaire de choisir cette forme?
J'ai besoin dans mes livres de laisser de la place au lecteur, je pense. Donc dans celui-là, comme dans les autres, j'ai besoin de m'imaginer, en tout cas, que le lecteur peut venir insérer sa propre voix à travers ce que moi je lui dis. C'est comme ça que j'aime lire, en fait.
Et ses pensées, puisque c'est vrai qu'à chaque fragment, on réfléchit, on pose le livre, on le reprend.
Il faut que ce livre puisse être une sorte de conversation, même si c'est habituellement pas comme ça qu'on pense au livre. On a l'impression que c'est comme un processus à sens unique, alors que moi, non, je pense que c'est un livre toujours deux auteurs. Il y a la personne qui l'écrit, il y a la personne qui le lit. C'est comme une partition musicale, ça reste mort tant qu'il y a personne qui le lit. Tu sais, des notes sur une portée, c'est joli, mais c'est pas de la musique. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne un instrument et qui ajoute sa voix à celle qui est sur le texte pour que ça se mette à exister pour vrai.
Alors, dès le début du livre, vous écrivez « Il existe une étymologie du mot aveugle, voulant que le terme vienne non pas du latin aboculis, dépourvu d'yeux, mais plutôt albus oculus, c'est-à-dire littéralement aux yeux blancs. Ce que cela sous-entend, c'est que l'aveugle serait non pas plongé dans une nuit noire, comme on le croit souvent, mais qu'il aurait au contraire un regard blanc, qu'il ne verrait plus que la blancheur. Être aveugle ou aveuglé, ce serait en somme l'équivalent d'un éblouissement, d'un trop-plein de lumière, à cette différence près qu'à celui qui se fait éblouir, on disait anciennement « est-ce bleuir ?», tout paraît bleu. Est-ce que le deuil rend aveugle ou est-ce qu'il permet au contraire de retrouver la vue?
Ah, les deux. Il me semble qu'on ne voit jamais réellement dans la vie que ce qu'on regarde pour la première fois ou pour la dernière fois. que entre ces deux extrêmes-là, on navigue un peu sur le pilote automatique des choses qu'on pense connaître, qu'on répète, qu'on ne voit plus vraiment. Puis l'exercice de l'écriture, à mon sens, la discipline d'écrire, c'est aussi ça. C'est de retrouver ce regard premier sur les choses ou le regard dernier qui leur donne tout leur prix. Et, mais j'étais très heureuse quand j'ai découvert ça, que le mot éblouir au début, en fait, c'était le mot esbluir. Tout à coup, tout me semblait prendre un sens. Je suis comme, oui, d'accord, c'est ça, j'ai compris.
Ah, c'est intéressant, l'étymologie, Dominique Fortier. Vous avez ce goût en commun avec Christophe Onodibio. Christophe Onodibio, on trouve dans votre livre de très jolis passages l'étymologie du mot sirène, par exemple, que je ne connaissais pas.
Le lasso, le lien.
Voilà, oui. La corde, seira ou serios. À quoi ça sert ? Serios, c'est un adjectif, c'est ce qui est brûlant. À quoi ça sert de connaître l'étymologie des mots, Christophe Onodibio ?
Tout à l'heure, Dominique parlait du fait que quand on écrit, ça nous ouvre d'autres vies que la nôtre pour pasticher un autre écrivain. Et l'étymologie, en fait, elle donne une autre vie aux mots, en fait, qui est pas une ancienne vie, qui est vraiment une autre vie, parce que on peut pas dire qu'un mot dérive d'un autre. Ça ouvre presque un nouvel avenir. Sur les sirènes dont vous parlez, c'est que en fait on s'est trompé sur les sirènes. Les sirènes sont liées à l'idée d'un lien. On tient le marin, on le retire presque entre ses raies, puisque les sirènes étaient plutôt des animaux, des volatiles, hein, plutôt que ces animaux un peu à queue de poisson, que ces êtres à queue de poisson qu'on a fabriqués ensuite. Et il y a l'idée de lien, de tirer, d'enserrer, et l'étymologie donne ça, en fait, donne de nouveaux liens entre les mots, et des portes s'ouvrent absolument. Donc moi, c'est pour ça que l'étymologie me passionne, et Dominique le disait très bien, ça ouvre même, quand on écrit, d'autres possibilités.
Oui, d'autres
voilà,
idées.
Et esbleuir, finalement, va... Et on part dans une autre direction.
Et on voit les choses autrement.
J'aime beaucoup esbleui. Voilà.
David Fuenquinos, on parlait avec Dominique Fortier de la question du deuil. Vous, tous vos livres parlent de la beauté, mais aussi de la mort, d'une manière ou d'une autre. La mort dont on se relève, même parfois. Votre personnage de Clara, dans votre livre, est dans le coma. Elle survit. Et vous dites très joliment qu'elle a arpenté la mort. Je trouvais cette expression très belle. Qu'est-ce que ça apporte, selon vous, de fréquenter la mort de près ?
Oui, elle a été pendant 8 mois comme ça dans cette parenthèse du monde. Elle était entre la vie et la mort. Elle a arpenté ces territoires indéfinissables, tout en étant connectée encore à la vie. Et c'est ce qui me paraissait aussi très romanesque dans le coma. Et elle revient à la vie armée d'une nouvelle énergie sensible, puisqu'elle va avoir de la clairvoyance. On parlait de l'étymologie tout à l'heure. C'est vrai que je l'ai appelée Clara aussi, parce qu'elle porte comme ça ce regard nouveau sur la vie des autres, et elle va bouleverser le destin de toutes les personnes. Il est évident que quand on est comme ça confronté à des sensations si extrêmes, on ne peut pas regarder la vie de la même manière, et qu'on est armé d'une nouvelle sensibilité. Christophe parlait comme ça de cette recherche un peu obsessionnelle de la beauté. Il faut être mort une fois pour pouvoir regarder en face la beauté, en tout cas la chercher en toute chose. Et c'est vrai que c'est le thème un peu récurrent de tous mes livres, que ce soit La Délicatesse ou Charlotte. Charlotte Salomon avait écrit cette phrase, moi, qui me hante, qui dit qu'il faut être mort une fois pour pouvoir aimer véritablement. Donc ce retour à la vie, c'est un retour aussi à une façon d'aimer, à une façon d'aimer la vie, et à une façon de se comporter différemment avec la part artistique de notre vie.
Dominique Fortier, vous approuvez ce que vient de dire David Fuenquinos ?
C'est très vrai. Je connaissais pas cette phrase qui dit qu'il faut être mort une fois pour vivre réellement. C'est très, très beau. Ce que vous dites, ça me fait un peu penser au regard du convalescent. Je me souviens plus si c'est Baudelaire, mais qui disait que, en fait, la personne qui voit vraiment, c'est celui qui avait craint de perdre la vie, mais à qui la vie est redonnée. Et donc, ce regard-là aussi est très précieux.
Sandrine Babu, de la librairie L'Instant, dans le 15e arrondissement, est toujours avec nous. Sandrine, vous avez adoré le livre de Dominique Fortier et vous aviez envie de nous en parler.
Pour commencer, je voulais dire un mot de l'objet livre, parce qu'il est absolument magnifique. Il y a une couverture qui est faite apparemment pour une artiste québécoise, c'est ça ?
Une artiste québécoise, ouais. Formidable, Stéphanie, voilà. Robert, voilà. Une très grande peintre.
Donc on y voit des nuances de bleu, ce bleu dont on a parlé, donc ce bleu dont vous explorez les variations, qui évoque la nostalgie, le manque, et c'est le bleu du blues aussi. Votre livre est très sensoriel, il est chatoyant, il y a des sensations, des impressions sur lesquelles vous mettez des mots. et qui nous sont familières, comme ce soleil qui coule doré sur le sable. Il pleut aussi beaucoup dans votre livre, on n'en a pas encore parlé. On l'entend crépiter au début, et comme cette pluie qui crépite, la mélancolie et la tristesse se mêlent à la vie qui continue, après la mort de votre père et dont vous évoquez le souvenir. Mais la pluie peut s'arrêter et l'espoir renaître. Et on a besoin, en fait, quand j'ai lu votre livre, je me suis dit qu'on avait besoin de beauté, d'attention à ce qui nous entoure pour composer avec la finitude de la vie. Ça peut paraître un peu évident dit comme ça, mais vous avez une façon de l'écrire qui m'a profondément touchée. Et j'aime quand vous recherchez la raison d'être des livres, ces livres qui vous accompagnent depuis l'enfance. Quand vous évoquez les mondes qu'ils ouvrent, la lumière qu'ils apportent, vous parlez de petites lucioles dans la nuit. Très, très jolie image également. J'ai eu l'impression d'être dans votre tête, en fait, dans votre fabrique de l'écriture. Quand vous vous posez des questions sur l'alchimie de l'écriture, sur la façon dont les mots et les idées se présentent à vous, sur la difficulté de trouver des phrases qui résonnent juste, ces phrases que vous remettez sans arrêt sur le métier, comme quand vous remontez sur votre planche de surf. Ça a l'air plus compliqué, le surf, pour vous.
Et Sandrine, vous aviez une question pour Dominique Fortier.
Oui, vous écrivez à un moment, je ne sais pas quand les mots reviendront. Alors, est-ce que ça vous arrive souvent de vous poser cette question-là ?
Tout le temps. À chaque fois que je termine un livre, j'ai l'impression que c'est fini pour toujours, que les mots sont disparus, qu'ils ne reviendront jamais, que je peux me mettre à les pourchasser, mais que je ne les rattraperai pas. Et c'est un sentiment qui est affolant, auquel je ne m'habitue pas.
Christophe Onodibio, je vous vois hocher la tête.
Oui, mais c'est chaque nouveau livre est plus difficile à écrire que le précédent. Et effectivement, cette peur de perdre cette tentative de créer d'autres mondes, en même temps de donner le monde à comprendre. Voilà, c'est tellement miraculeux à chaque fois qu'on se pose la question.
La mère intérieure, on a quand même le sentiment que vous l'avez écrit avec facilité.
Alors, c'est un livre très différent, parce qu'effectivement, c'est pas un roman, et c'est un livre, alors je ne sais pas si c'est l'âge ou c'est... Mais j'ai vraiment eu envie de payer mes dettes à une partie de ma famille. C'est la première fois aussi que on dit « je » dans les romans, mais c'est jamais forcément nous, même si
oui,
c'est
voilà,
un peu
c'est
nous.
Narrateur, oui.
Et effectivement, mon grand-père, qui était ouvrier sur les chantiers navals du Havre et qui passait son temps à réparer des bateaux sur lesquels il n'embarquerait jamais, son beau-frère, lui, qui était imprimeur sur le France, alors... redécouvrir ces choses dont on parle pas forcément enfant, avoir un grand-oncle qui travaille avec de l'encre comme les écrivains mais dans le ventre d'un bateau, le mythe est là. Alors je les ai appelés, j'ai demandé qu'ils me racontent mon père, les fossiles de la falaise du Pays de Caux, la pêche aux étrilles, tous ces souvenirs, le souvenir du premier bain qu'on a tous, essayer de reconvoquer tout cela pour oui, alors je ne sais pas si c'était plus facile, mais c'était plus...
Vous aviez de la matière.
Plus apaisé. Et il s'agissait aussi d'écrire une déclaration d'amour à la mère, parce que la mère m'inquiète. Hein, c'est aussi... Elle ne va pas bien.
Oui, il y a une dimension écologique aussi dans ce livre.
Mais si la mère meurt, si la mère s'appauvrit, ne devient plus qu'une sorte de bassin où on ira patauger, c'est aussi tout un imaginaire qui meurt. Et les scientifiques ont énormément de problèmes à faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe. Il y a besoin de récits aussi, il y a besoin d'un narratif, comme on dit. Donc, c'est vrai que j'étais porté par ça, d'où le livre bleu, rendre hommage, payer mes dettes. Et puis, la mère nous apprend tellement, tellement de choses. C'est une bibliothèque liquide. Donc, on apprend.
Cette expression qu'on retrouve dans votre livre, effectivement, qui est très bien choisie. Dans votre roman, David Fuenquinos, il est aussi question, comme dans celui de Dominique Fortier, d'écriture et notamment des blocages. Je pose la situation. Alexis est banquier et en pleine crise existentielle après l'accident de sa fille Clara. Il rejoint un atelier d'écriture pour se reconstruire. Il y rencontre un écrivain mystérieux, Éric Rupré, qui n'a plus rien publié depuis 1982 et refuse de parler de son unique roman, par ailleurs introuvable. Et donc Alexis va se lancer comme ça dans une enquête pour essayer de comprendre le mystère de cet homme. Un homme qui n'écrit plus, en quoi c'est fascinant, David Fuenquinos, sachant que je vous pose la question, parce qu'il y a une phrase dans votre livre. La phrase, c'est la suivante. « Il y a quelque chose de culte à l'idée de ne plus écrire. »
Oui, et moi qui publie un livre par an, je m'enfonce dans l'inculte.
C'est votre 20e roman, donc j'aimerais comprendre cette phrase.
Mais c'est vrai que souvent mes livres sont traversés comme ça par ces figures de l'ombre, par ces numéros 2. J'avais écrit un livre qui s'appelle Le mystère Henri Pic, qui parlait non pas de la bibliothèque liquide, mais de la bibliothèque des livres refusés. Voilà, tous les dépressifs de la littérature qui ne trouvaient pas de place comme ça pour la vie de leur manuscrit. Et c'est vrai que cette figure comme ça, alors c'est un personnage assez charismatique, c'est vrai que le livre s'appelle Tout le monde aime Clara, il y a cette jeune fille qui va développer des dons de voyance, mais l'autre grand personnage, c'est cet écrivain, puisque le livre évoque aussi ce rapport entre l'écriture et la voyance d'une certaine manière. C'est cet écrivain un peu culte, un peu étrange, qui anime des ateliers d'écriture avec des théories complètement loufoques et farfelues. Il y a très peu de gens, d'ailleurs c'est très facile d'avoir un rendez-vous chez lui, personne ne se presse pour assister à ses ateliers d'écriture.
C'est pour ça qu'il trouve un rendez-vous rapidement,
voilà,
c'est le seul qui est disponible.
Et puis il avait publié un livre aux éditions de Minuit en 1982, La peur des secondes, un livre épuisé, un peu comme lui, et c'est vrai que tout le monde cherche ce livre parce qu'il est dit que peut-être la clé de son renoncement serait à l'intérieur de ce livre. Et donc forcément il y a quelque chose d'assez fascinant pour ces gens qui n'écrivent plus. Moi, j'avais été totalement fasciné par un livre de Enrique Villamatas qui s'appelle Bartleby et compagnie, qui parle comme ça. C'est plein d'histoires de tous ces écrivains qui n'ont pas écrit, qui ont écrit un seul roman, des livres inachevés. Il y a quelque chose comme ça dans ce chemin un peu tortueux qui est assez éblouissant aussi. Mais heureusement, on est dans un roman et peut-être qu'il va renouer avec l'écriture suite à sa rencontre avec Clara dans le livre.
Et vous, ça vous arrive d'être en panne ?
En panne, moi j'ai le sentiment que le véritable enjeu, c'est plutôt de se renouveler. C'est un peu ce que tu disais aussi, Christophe, c'est-à-dire c'est d'aller comme ça aussi chercher ce qu'on a au fond de soi en permanence. C'est plus pour moi l'angoisse de la médiocrité, l'angoisse de me dire est-ce que je vais essayer de...
Mais est-ce que vous avez déjà lâché un roman ? Est-ce que vous avez déjà abandonné un roman ?
Oui, sûrement. Et puis des films, des scénarios. Là, je suis en panne, par exemple. Ça fait 4 ans que j'ai pas tourné de film. Ça me manque profondément. Donc, bien sûr, l'inachevé, d'ailleurs, c'est ce qui est dit à un moment donné dans le livre avec la figure du sculpteur aussi. L'inachevé est finalement constitutif de toute création. C'est une phrase de ce sculpteur William Story qui est au cœur du livre, puisque il y a une sculpture que je mets en photo d'ailleurs dans le livre à Rome, au cimetière non catholique de Rome, qui s'appelle L'ange du chagrin. C'est une histoire absolument merveilleuse et émouvante de cet homme qui, à la mort de sa femme, a sculpté pendant 8 mois ce qui va devenir leur tombeau et voilà le mausolée de leur postérité amoureuse. Et il parle, lui, justement, en permanence, alors que c'est quelqu'un qui a créé des choses formidables, je raconte un petit peu sa vie dans le livre, il parle de la nécessité permanente de l'inachèvement.
David Fuenquinoz, Dominique Fortier, Christophe Nodibio, puisque vous êtes tous les trois de grands lecteurs et que vous vous intéressez tous les trois aussi au métier d'écrire, on se retrouve tout de suite pour un atelier d'écriture.
Tes doigts, quelle bonne idée.
Vous écoutez Etc, c'était Zao de Sagazan, Parler l'amour. Et nous sommes toujours en compagnie des romanciers David Fuenquinos, Dominique Fortier et Christophe Onodibio. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS La Première, RTBF La Première, au Festival du Livre de Paris.
David Fuenquinos, votre personnage d'Alexis, donc le père de Clara, dit à un moment qu'on n'écrit jamais pour soi-même. Et vous, pour qui écrivez-vous ?
Ça, c'est la question qu'on nous pose parfois et c'est une des plus difficiles à répondre. Parce que surtout quand on est suivi par des lecteurs, on peut penser comme ça potentiellement à son lectorat. Mais j'ai le sentiment que le plus important, c'est la conversation qu'on entretient avec son esprit, avec son obsession et avec la nécessité. Donc peut-être que j'écris pour ma nécessité, pour me dire, voilà, est-ce que c'est vraiment nécessaire ce qui m'anime actuellement ?
Christophe Onodibio, vous, pour qui écrivez-vous ?
La question est, il est vrai, très compliquée. Non, j'ai l'impression qu'on écrit d'abord pour soi, mais pas que pour soi. C'est-à-dire qu'en fait, on propose quelque chose. J'ai du mal à vous répondre, parce que plus on est sincère, j'ai l'impression, plus on va toucher. En fait, j'ai l'impression, moi, que l'être humain est au fond universel. C'est-à-dire qu'en fait, et on le voit sur une petite chose qu'on va mettre dans un livre où les gens vont se reconnaître, ça va réveiller parfois d'autres choses qu'on avait mises, et vous le disiez tout à l'heure, Dominique, les gens vont penser que c'est à eux et ça va miroiter dans leur âme, dans leur esprit. Évidemment, on pense au lecteur et c'est pour ça qu'on réécrit, mais si on n'a pas une voix intérieure qui vous dit qu'il faut le faire parce que c'est presque une question de vie ou de mort, où je disais tout à l'heure, pour pas devenir fou, ben, vous le faites pas, on peut pas vous forcer à écrire un livre. Même des millions de lecteurs pourraient pas vous dire, mais écris-nous un prochain livre, si, enfin, vous le savez très bien, Lilia, vous aussi. Si ça vient pas totalement de nous et d'une volonté un peu absurde, peut-être, et formidable à cause de cette absurdité, de rajouter un livre à tous ces merveilleux livres, et ben on le ferait, voilà, ça n'existerait pas. On ne le ferait pas.
J'ai vu Dominique Fortier tiquer.
Je suis d'accord avec tout.
Et vous écrivez pour qui?
Moi, je pense que j'écris pour inventer mon lecteur. Je pense que c'est un peu l'obsession que je prêtais à Emily Dickinson dans Les Villes de papier. Je l'imaginais assise à sa table en train d'essayer d'invoquer quelqu'un. Puis elle se disait, si je finis par avoir suffisamment de talent, cette personne va exister. Je pense que j'écris un peu pour ça.
Moi, j'écris pour inventer mon lecteur.
C'est une bonne
J'ai
réponse,
tellement aimé
pas, David
cette réplique, je veux la prendre.
Il faut la garder. Pour la prochaine fois qu'on vous pose la question. Alors, David Fuenquinos, ça tombe très bien, parce que je ne veux pas dévoiler le mystère de votre roman, Tout le monde aime Clara. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un livre encore plus magique que les autres, avec, vous l'avez dit, de la voyance, de l'ésotérisme, des coïncidences. Vous avez déjà écrit sur Harry Potter. Quel lien faites-vous entre l'écriture et les sciences occultes ?
Pour moi, c'est très important parce que, d'abord, c'est la première fois que j'en parle aussi frontalement. Je fais un coming out ésotérique dans ce livre. C'était déjà présent dans mon roman Charlotte, c'est-à-dire que j'avais le sentiment d'être attiré par Berlin, par Savigny Platz. Quand j'ai découvert cette peintre allemande, elle me parlait, j'avais l'impression de rencontrer quelqu'un qui existait déjà en moi. Donc, c'est un livre qui souligne finalement la lecture permanente des signes, l'idée qu'il faut aller chercher la part déraisonnable des choses et que finalement tout a un sens. C'est vrai que quand on lit ce livre-là, il est peut-être très romanesque, il y a beaucoup de personnages, il est traversé par beaucoup de péripéties, et qu'on peut se demander finalement quel est le chemin de ce roman, et que dans la dernière partie, finalement tout se recompose et tout fait sens.
Vous avez bien faire ça dans le roman.
Là, particulièrement dans celui-ci. Parce que justement, ça soulignait l'idée qu'il y a une signification en toute chose. Donc c'est vrai que c'est un livre qui, même si je parle de voyance, je parle de numérologie, d'astrologie un petit peu dans ce roman-là, ce qui m'intéresse plus, c'est cette frontière non pas trop extrême ou loufoque avec le réel, mais c'est la part tangible, en fait, où les choses dérapent vers quelque chose qu'on ne comprend pas dans un premier temps.
Christophe Onodibio, vous parlez de Circé. Dans votre livre, La magicienne de l'Odyssée. Est-ce qu'écrire, c'est avoir ce même pouvoir de métamorphose ?
J'aime beaucoup votre question. J'aime beaucoup le mot métamorphose. J'aime beaucoup l'évocation du nom de Circé, qui est non seulement une magicienne, mais une conseillère. David parlait des signes, c'est extrêmement important. L'idée, alors pour revenir, vous parliez du Moyen-Âge, l'idée de merveilleux. Qu'est-ce que c'est que la merveille quand on dit c'est merveilleux? Mais au Moyen-Âge, quand vous relisez le livre des merveilles de Marco Polo, qui est un récit de voyage, mais où en même temps il y a des choses qu'il a forcément inventées parce que ça n'existe pas. Les licornes n'existent pas, sauf dans Harry Potter.
Mais le prochain
signe,
livre de David Fuentes.
C'est-à-dire le fait que quand les choses apparaissent, il y a une raison, que tout est lié. Circé, à la fois, elle métamorphose les hommes en pourceaux, c'est-à-dire elle est entourée d'animaux. Il y a un lion. Et en même temps, c'est elle qui donne les clés à Ulysse pour rentrer chez lui. Circé, c'est la mère, sans donner la fin, mais c'est la mère d'un enfant, Télégonos, qui va tuer Ulysse d'une façon qui est liée à la mère. Circé explique tout, c'est la conseillère. Donc, dans la magie, dans cette faculté à transformer, à métamorphoser, il y a aussi l'idée d'un savoir très très profond, tourné vers le passé, tourné vers le futur, comme les sirènes. Les sirènes savent ce qui a été et ce qui sera. C'est pas du tout seulement une figure de la séduction, c'est une figure de la séduction de la connaissance. Les sirènes, elles promettent, comme Circé, la connaissance totale. Et la magie, Prométhée d'ailleurs, voilà.
Voilà.
C'est un mauvais jeu de mots.
Très
Prométhée
bon mots.
Aussi une forme de connaissance totale.
Dominique Fortier, il faut croire en la magie pour écrire?
Oh oui, oui, oui. Naïvement, candidement, oui. Moi, je reviens à Dickinson qui est un guide dans plusieurs choses de ma vie et de mon écriture et qui disait cette phrase très belle, « We are always in danger of magic ». On est toujours en danger de magie, la magie nous guette. Et c'est à ça que sert la littérature, je pense, à la faire apparaître, pas juste dans nos livres, mais à la faire apparaître dans la vie. Moi, je crois ça. Il y a une écrivaine québécoise que j'aime beaucoup qui s'appelle Catherine Leroux, qui disait cette chose merveilleuse, « L'écriture est une prophétie autoréalisatrice ». C'est-à-dire que ce qu'on écrit se met à exister. Et non seulement pour nous, mais pour les autres. L'écriture a ce pouvoir et cette magie-là.
Alors, ce que vous venez de dire, ça, je suis obligée de passer la parole à David Fuentes. Ce qu'on écrit se met à exister, n'est-ce pas?
Ouais, clairement, puisque, en tout cas, c'est une phrase que, décidément, je pourrais reprendre toutes tes phrases, mais celle-là, j'aurais pu la mettre en exergue de mon livre, puisque, justement, il y a cet écrivain dont on parlait tout à l'heure qui n'écrit plus et qui va se remettre à écrire par l'intuition de cette jeune fille, par l'intuition de Clara, puisque... Dans ce livre-là, d'une certaine manière, j'évoque le lien entre l'écriture et la voyance. Moi, je ne me suis pas rendu compte dans un premier temps de la part personnelle de ce livre-là, puisque je parle d'une adolescente qui passe des mois à l'hôpital et puis qui se réveille comme ça avec ce don de voyance. Et ça a été totalement mon cas. J'ai passé des mois à l'hôpital. J'ai arpenté ce territoire entre la vie et la mort. Et puis, alors que je n'étais pas issu d'un milieu culturel, je me suis mis à lire, à écrire, à aimer la vie à travers le prisme de la beauté à ce moment-là. Et donc, et j'ai commencé à avoir de l'imagination. Donc je ne fais pas le lien comme ça entre la voyance et l'imagination, mais quand on écrit, on est traversé par des images, on est traversé par des choses qui nous échappent et qu'on retranscrit d'une certaine manière. Et il y a une part comme ça de possibilité à travers l'écriture d'impacter le réel, et je crois beaucoup en cette idée que effectivement ce qu'on écrit peut annoncer certaines choses.
Christophe Anodibio.
Oui, et par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure sur le rapport entre la mort, l'écriture, la vie, le souvenir, il faut aussi, puisqu'on parle de magie, je ne sais pas si l'écriture est une magie, c'est aussi une affaire de technique, hein, puisqu'on parle d'atelier d'écriture. Mais il y a quand même cette puissance, en fait, de faire communiquer les mondes, de donner un supplément de vie à chaque chose, de conjurer la mort, en fait. Il y a ça. Je pensais... Je cherchais là, parce que je le connais malheureusement pas par cœur, mais quelqu'un qui était très sensible et à la magie, et au rêve, et à la mort, et à la puissance de l'écriture, Nerval, Eldezi Shadow, ou justement, parce que je cherchais la fée. Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Chez Nerval, qui quand même meurt fou, hein, où il y a quand même ça, et où il y a ces mythes qui viennent s'intercaler dans sa poésie, qui appellent des images très très fortes, qui tissent des constellations entre toutes les choses.
Traversent les mondes.
Exactement, et qui parlait des portes d'ivoire, de cornes et d'ivoire, qui, entre le rêve et la réalité. Et c'est ça aussi écrire, c'est être en permanence et chercher d'ailleurs ces états-là entre la réalité et, le, et l'illusion et le monde du rêve. Quand vous vous levez à l'aube, il y a ça. Voir l'aube, c'est voir aussi le moment où tout le monde dort encore, la nature se réveille, vous avez l'impression que c'est entièrement pour vous. Vous êtes dans un monde d'entre-deux et écrire, c'est être dans un monde de l'entre-deux. Donc, je ne sais pas si ça s'appelle magie, mais en tout cas, cet entre-deux-là mérite d'être exploré.
Mais c'est aussi un danger. Dans le livre de David Fuenkinos, il y a une phrase qui m'a marquée au sujet d'Amélie, qui est une participante à l'atelier d'écriture. Vous écrivez « Elle semblait appréhender cet atelier tout comme elle aurait eu un amant. Cela dit, on pouvait parfois considérer l'écriture comme une forme d'infidélité à sa vie. Qu'est-ce qu'on risque quand on écrit, David Fuenkinos ?»
On risque moins que de le vivre réellement. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours considéré la littérature comme une sorte de voyage de moi-même, de travestissement d'une certaine manière. Mais tout le paradoxe, c'est que je me suis rendu compte que vraiment, livre après livre, alors que j'ai le sentiment d'être traversé tellement par le désir romanesque et le désir de m'échapper de moi-même, je ne me rends pas compte à quel point mes livres sont de plus en plus personnels. Donc finalement, ce qu'on va chercher ailleurs, c'est aussi une part de soi-même. Donc c'est assez complexe.
Christophe Onodibio, j'aimerais qu'on plonge désormais dans votre livre, Mère intérieure. Et pour cela, je voudrais que vous nous lisiez un passage essentiel, parce que la mère est d'abord chez vous un souvenir d'enfance. Vous êtes né au Havre et vous développez une théorie sur la ville du Havre. Je vous propose de nous la lire.
Ma théorie sur le Havre, c'est que cette ville fière, droite, vous apprend ce qu'est le sens de l'histoire. Qu'on peut être massacré, comme vous le savez, le Havre a été massacré à 95% par les bombardements pendant la guerre. Qu'on peut être massacré, détruit et se relever. Moqué dans ses nouveaux atours, âpres, a priori peu attrayants, et puis, peu à peu, les imposer au monde, comme on impose sa beauté singulière, pas évidente mais plus durable, car moins sujette aux modes. Ma théorie sur le Havre, c'est qu'on ne naît pas dans un port comme on est dans une vallée, en montagne, en plaine ou près d'une rivière entourée d'arbres. La proximité avec les vagues vous engage pour le reste de la vie, et pas seulement parce que vous avez l'impression d'avoir un peu plus d'iode que les autres dans le sang, et que celle-ci, comme la limaille de fer, se précipite pour embrasser l'aimant, vous attirera toujours avec une force irrésistible vers les océans, où qu'ils soient. Avoir tous les jours l'horizon en ligne de mire, ça vous le rapproche.
Alors, ça veut dire quoi, cette dernière phrase, avoir tous les jours l'horizon en ligne de mire, ça vous le rapproche?
C'est vraiment, on parlait de la couleur bleue tout à l'heure, moi j'ai écrit ce livre déjà près de la mer, constamment, ou du moins dans ma tête quand elle n'était pas là, parce que j'ai grandi sur des falaises, et il n'y avait pas un jour de mon enfance où je partais pas sur mon VTT. J'étais vraiment à 200 mètres de la mer, par tous les temps, et le spectacle que j'avais au rebord du monde, quoi, parce que les falaises, c'est ça, c'était cette ligne d'horizon. Et cette ligne d'horizon passait en fait des drôles d'animaux, alors pas des baleines, mais des baleines d'acier, les porte-conteneurs, les grands cargos chargés de ces boîtes de toutes les couleurs qui venaient du monde entier. Et j'avais l'impression de voir comme un rail, parce qu'en fait, ces bateaux se déplacent, translatent finalement sur l'horizon. Et je savais que de l'autre côté, parce que mon grand-père me racontait tout ça, il y avait Carthagène et le bon café de Carthagène. Il y avait les tours de Manhattan dont parlait mon grand-oncle. C'était juste de l'autre côté. Et quand vous grandissez face à ce paysage qui vous dit tous les jours que de l'autre côté, il y a quelque chose, vous voulez y aller. Vous voulez y aller physiquement, vous voulez y aller par l'imagination.
C'est ça, ça
d'abord.
Ouvre l'imaginaire.
Mais forcément. Et en fait, ça vous apprend aussi que l'instabilité, la soif d'ailleurs, l'ouverture à l'autre. Le Havre, c'est une ville anglaise, c'est une ville de foot, de docker, d'ouvriers. C'est une ville qui a un chic ouvrier fou. C'est une ville rugueuse, mais où les gens sont extrêmement attachants, où le ciel est parfois plombant, mais en même temps où l'impressionnisme est né. Et tout ça, encore une fois, on parlait des signes. Il n'y a pas de hasard. Il y a une constellation.
Il faut travailler pour l'Office de tourisme du Havre, en tout cas.
Non, mais c'est tous les énormément d'artistes. S'il y a eu déjà les ports, sont des endroits d'un romanesque fou où le monde entier vient, se mélange, fait des enfants, se quitte, se massacre, se tue, invente des livres. On parlait tout à l'heure. Pourquoi on écrit quand Melville écrit Moby Dick, qui est un fiasco, un chef-d'œuvre littéraire, un fiasco horrible, et qui décrit Manhattan avec ces gens qui ont la soif de l'eau. Bah, la soif de l'eau, c'est quelque chose qui existe dans certains lieux, et quand vous grandissez là, et bah, ça vous fait des choses que vous gardez pour la vie.
Dominique Fortier, vous aussi, vous avez la soif de l'eau.
Oui. Mais c'est fascinant ce que vous dites au sujet de cet horizon qui est à la fois très lointain, tout proche, parce que c'est le propre du bleu, en fait. D'un point de vue physique, et je suis extrêmement peu scientifique, mais le bleu, c'est les molécules de lumière qui se perdent en chemin. Donc, c'est la raison pour laquelle en peinture, quand on veut représenter le lointain, c'est quelque chose qui est dans la distance, on utilise des teintes bleutées. Notre œil le perçoit aussi de la même façon. Plus les choses sont loin, plus elles deviennent bleues. Et donc, par définition, même le bleu, c'est la distance qui nous sépare de ce qu'on cherche, de ce qu'on voudrait. C'est la couleur même du manque, c'est la couleur du désir.
C'est beau ce qu'elle dit.
Mais c'est beau, vrai.
Christophe Onodibio, je savais que ça allait vous plaire. Christophe Onodibio, Dominique Fortier et David Fuenquinos, on se retrouve dans quelques instants, mais avant, on écoute The Liminianas et Bertrand Belin, J'adore le monde.
J'adore le monde, les eaux sont blancs, le sang rouge, quand il y a du vent, ça bouge. Il y a les rivières, les films d'épouvante, pour les pièces de monnaie, il y a les fentes. J'adore le monde, car il y a le temps, l'espace, que les guerres éventuellement passent, que ça se tasse. J'adore le monde et tout ce qui palpite, gronde. J'adore le monde.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission etc. Nous sommes toujours en compagnie de Christophe Onodibio, Dominique Fortier et David Fuenquinos.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première. au Festival du Livre de Paris.
David Fuenquinos, votre personnage d'Alexis se rend dans un atelier d'écriture au début du livre. Est-ce que vous pensez qu'écrire, ça peut s'apprendre ?
Je ne suis pas certain de ça. C'est vrai qu'il y a toute la première partie du livre qui parle beaucoup des ateliers d'écriture, mais aussi comme un endroit où on peut partager ses émotions, comme un endroit bénéfique. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas de vérité à l'écriture, on le voit bien.
Vous avez
bien
déjà
même
animé des ateliers ?
Non, rarement. Parfois, quand j'avais le concours des lycéens, j'ai été avec des jeunes élèves. J'ai le sentiment, pour moi, que animer, c'est plutôt accompagner. C'est-à-dire que si on lit un texte, il n'y a pas de vérité pour moi à la littérature. On le voit bien à travers les échanges qu'on a depuis tout à l'heure. Chacun a sa propre voix, sa façon de voir les choses. J'ai le sentiment qu'un atelier, c'est d'accompagner, c'est-à-dire demander à quelqu'un qui écrit un texte pourquoi tu l'écris, qu'est-ce que tu as envie de dire, qu'est-ce qui est important pour toi. C'est plutôt voilà, de permettre d'accoucher. Y a pas, on ne peut pas dire, bon là, il faut que tu mettes un point, là, une virgule. J'y crois pas beaucoup à ça. Et c'est vrai que moi, mon personnage, il a des théories totalement fantasques, et notamment, il pense que la connaissance de la peinture est plus importante que celle de la littérature pour écrire. Il dit qu'il faut éduquer l'œil, donc il leur demande de travailler beaucoup.
Et vous êtes d'accord avec ça ?
Bah pour moi, c'est vrai que très souvent, mes livres se racontent beaucoup la peinture. Là, il y a une sculpture qui est très importante. J'ai écrit un livre Vers la beauté qui parle de la recomposition d'une jeune fille par la tentative de la peinture. J'y crois, oui, profondément. J'ai le sentiment qu'en tout cas, il ne faut pas que éduquer le rapport à la littérature pour pouvoir écrire. Mais ça peut être aussi la musique, ça peut être les sensations qu'on peut avoir ici ou là.
Vous écrivez, vous, en ce moment ?
J'écris tout le temps. Là, sauf pas là, parce que je suis venu vous voir.
Donc, il y aura un livre l'année prochaine.
Je ne sais pas, parce que c'est ce qui est absolument magique. Écrire, ça ne veut pas dire parvenir à écrire. C'est-à-dire que je suis peut-être dans les 20, 30 premières pages. Je suis incapable de vous dire si je vais être capable d'aboutir. Peut-être que ça sera mon roman inachevé. On fera la promotion de ce livre qui n'existe pas.
Alors, rapidement, Dominique Fortier, vous avez un roman en préparation, vous ?
Peut-être. Moi aussi, je suis au début de non pas un, mais deux romans. Je ne sais pas lequel va survivre, si un, zéro, je ne sais pas.
Et vous, Christophe Onodibio, rapidement ?
J'ai parlé du goût du secret, donc je suis obligé de rester secret. Oui.
Bon, merci à tous les trois. C'est la fin de cette émission au Festival du Livre de Paris. Merci au public et encore merci à nos invités. Dominique merci Fortier, pour votre livre « Quand viendra l'aube » qui déploie des sensations par touches impressionnistes tout en délicatesse avec beaucoup de références littéraires. C'est un livre court mais très riche sur la question du deuil entre autres. Et c'est vrai que la couverture est magnifique. On le trouve aux éditions Grasset. Je conseille aussi chaudement votre « Mère intérieure » Christophe Onodibio, livre érudit sans être pédant, dans lequel on navigue entre souvenirs et savoir. Personnellement, ça m'a passionnée et c'est aux éditions de l'Observatoire. Quant à David Fuenquinos, Tout le monde aime Clara chez Gallimard. Tout est dans le titre. Titre prémonitoire, puisque le roman cartonne. L'enquête vous emporte dès la première page. On a très envie de savoir ce qui se cache derrière les silences de vos personnages. Un mot de remerciement aussi à notre libraire du jour, Sandrine Babu. Merci d'être venue. Je rappelle qu'Etc. est une émission France Inter en coproduction avec les médias francophones publics. Merci enfin à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Estelle Gap, Virginie Rouzic et Manon Grandière, ainsi que toute l'équipe de Radio France sur place au Grand Palais, Alain Fauché, Céline Casagrande, Pascal Brest, Johanna Gabrich, Olivia Branger, David Abécassis, Martin Guénard, Alexandre James. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.